La figure du berger, c'est un classique de la Bible. L'Éternel est mon berger. Tout de suite, ça monte à l'esprit. Peut-être d'autres paroles aussi, comme celle d'Ésaïe 40. « Voici le Seigneur Dieu comme un berger. Il fait paître son troupeau et de son bras, il rassemble. Il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. » Ou encore le prophète Ézéchiel, « Comme un berger prend soin de ses bêtes, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Lui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. » Il y en a d'autres encore que je pourrais citer sur la figure du berger. C'est le rôle de guide, de rassembleur, de protecteur, rôle joué par Dieu dans la Bible, mais aussi par Moïse, par David, et puis par le Messie qui est promis. Et quand Jésus, dans ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, reprend à son compte le vieux refrain biblique, prophétique, du berger, alors on pourrait s'attendre à voir les disciples, ses disciples, ses plus proches, boire du petit lait de brebis, évidemment. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est le contraire qui se passe. Au verset 6, « Contre toute attente, Jean précise, ils ne comprirent rien à ce qu'il disait. » Malgré le parfum biblique, malgré la tonalité messianique de la parabole du berger, cela n'évoque rien pour eux. Ils entendent la parabole, mais ils n'entendent pas la parole. Ils n'entendent pas le message de Jésus pour eux. Comment expliquer cette incompréhension des disciples ? Peut-être en relevant d'abord que si l'image du berger est très connue du Premier Testament, elle est assez peu développée dans le Nouveau Testament et dans les Évangiles. Dans les Évangiles, on se souvient de la parabole de la brebis perdue, bien sûr. Mais à bien regarder le texte de la brebis perdue, malgré les représentations iconographiques où on voit Jésus avec la brebis sur ses épaules, un peu comme l'icône que j'avais proposée en ouverture, en réalité, il n'est pas question de berger dans cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis ? Un homme avait 100 brebis, mais le mot berger n'apparaît pas. Je n'ai pas trouvé un seul passage, en fait, dans les évangiles synoptiques, les Matthieu, Marc, Luc, où le terme de berger soit explicitement attribué à Jésus. Une fois, Jésus est pris aux entrailles quand il regarde la foule et il dit « ils sont comme un troupeau qui n'a pas de berger ». Mais justement, il n'y a pas de berger. Et une autre fois, en Matthieu 25, où cette fois, c'est le Fils de l'homme qui, à la fin des temps, venant sur les nuées, bon, il sépare entre les boucs et les brebis, comme le ferait un berger. Voilà les seules références dans les synoptiques. Il y a peut-être aussi une autre explication, alors plus historique cette fois, qui fait que le mot berger n'est pas tellement aimé des évangiles, à part l'évangile de Jean. Il y a un historien du 1er siècle de notre ère, qui est un historien juif, qui s'appelle Flavius Joseph, et qui, au 1er siècle, évoque ce mot de berger. Il relève que ce mot est un mot piégé, un mot qui est devenu presque tabou en Israël à cette époque-là, à cause de la récupération politique qu'en avait fait un mouvement politique de libération d'Israël qu'on appelait les Zélotes. Vous avez dû entendre parler de ces, de ces zélotes qui a donné le mot en français les zélés, hein, les gens qui en veulent, et pour cause. Ce parti révolutionnaire juif, très messianique, mais prenait un messianisme violent. Il fallait commettre des attentats terroristes contre l'occupant romain. On est toujours le terroriste de quelqu'un. Les zélotes se faisaient appeler, curieusement, les bergers. Et Flavius Josèphe parle d'eux comme des brigands. Il utilise exactement le même terme qui est employé ici à propos de ceux qui tentent de pénétrer dans la bergerie par effraction, les imposteurs, les brigands. Un peu comme ces faux bergers de zélotes, peut-être. Et puis, il y a aussi un autre indice qui est très intéressant. Jean précise, c'est plus loin, on ne l'a pas lu, c'est au verset 22 du même chapitre, que c'est la fête de la dédicace. C'est une fête qu'on célébrait en Israël depuis la victoire de Judas Maccabée. Judas Maccabée était un juif qui avait purifié le temple. Et en 165, avant Jésus-Christ, il avait purifié par la force le temple qui avait été profané par un dénommé Antiochus Épiphane, le temple de Jérusalem. Et donc on célébrait cette victoire à la fête de la dédicace. Et on peut imaginer l'excitation qui pouvait régner en Israël à l'occasion de la fête religieuse, de la dédicace, et en particulier par le mouvement des zélotes. Voilà des éléments contextuels intéressants qui nous permettent de resituer un peu les paroles de Jésus. Alors, en se présentant comme le bon berger, Jésus a-t-il eu l'intention de clarifier les profonds malentendus qui règnent autour de ce mot et qui entourent sa messianité? Il ne sera pas l'un de ces bergers politiques, l'un de ces libérateurs populistes attendus par la foule. Il ne sera pas un marchand de rêves. Il est le bon berger au sens, non pas du bon au sens, vous entendez, du gentil, au sens éthique du mot bon, il sera le bon berger au sens du mot vrai. Il sera le vrai berger. C'est vrai que quand nous entendons affirmer « je suis le bon berger », il y a toute une imagerie inconsciente qui apparaît en nous. C'est la figure du gentil berger. Toute l'iconographie et même les dessins récents présentant Jésus comme berger lui donnent ce visage du tendre frère ou du gentil papa. Doux, regard doux pour ses agneaux, qui va d'un pas rassurant à la tête d'un troupeau docile, qui rassemble ses bêtes à l'abri de la chaude bergerie aussi. Hein. Tout ça, des tableaux bucoliques en tout genre ne manquent pas. Vous pouvez googliser ça, vous verrez. Des images arrivent dans cette texture-là. Mais moi, je crois que cette imagerie-là affaiblit le sens de cette parole de Jésus, de l'expression « bon berger ». Le bon berger est un autre berger. Le berger qu'on n'attend pas, c'est lui le bon, dans le sens du vrai. Le bon berger ne caresse pas dans le sens du poil ses brebis, mais il nous emmène vers le lieu de notre liberté, qui est la vie par la foi. Il nous conduit vers la rupture nécessaire et radicale avec toutes les fausses certitudes, les fausses sécurités qui construisent nos vies. C'est le berger qui veut nous apprendre à regarder nos vies dans ce monde en face, avec lucidité, À bien y regarder, le berger de Jean 10 est un guide subversif. Il n'est pas cet écoutant paisible, bienveillant, à qui l'on peut tout dire et qui est toujours d'accord avec nous. Le vrai berger fait son entrée dans la bergerie pour y apporter un message de rupture qui est un appel au départ. Marcher avec lui, c'est premièrement quitter une vie et en commencer une autre. La première action du berger consiste à mettre tout le monde dehors. Contrairement à ce que font nos églises, d'ailleurs, ce n'est pas le troupeau qui choisit son pasteur, hein, pour couler des jours paisibles dans l'enceinte sécurisée de la chaude bergerie. Pas du tout. Le vrai berger, c'est le pasteur qui sonne le branle-bas de combat, qui nous met en ordre de bataille. Tout le monde dehors. Nous partons. Et ce ne sera pas une promenade de santé dans les verts pâturages du psaume 23. Partir, telle est la parole fondatrice de la nouvelle relation à Dieu en Jésus-Christ. Dans le contexte de l'évangile de Jean, l'ancienne bergerie d'Israël est bien évidemment visée. C'est la vieille religion que le Christ abandonne définitivement, prenant la tête de son Église. Mais c'est aussi de notre vie qu'il est question ici. Devenir chrétien, c'est accepter de nous mettre en marche à la suite du Christ, abandonner nos vieilles certitudes, qu'elle soit religieuse ou non, pour prendre le risque d'une vie dont nous ne connaissons pas par avance le tracé. J'aime aussi cette insistance de Jésus sur la relation personnelle avec le berger. Ce n'est pas par instinct grégaire que le troupeau se met en marche, c'est parce que chaque brebis est connu par son nom. Chacun fait le pas de la sortie, en âme et conscience. La brebis répond donc individuellement à l'appel que lui adresse le berger. Elle répond parce qu'elle se sent aimée. Quand on nomme quelqu'un, on l'aime. Quand on lui fait « hep », c'est pas ça encore, hein, la relation. La vie chrétienne peut devenir pour chacun d'entre nous cette aventure à la fois communautaire et personnelle, intime, d'une marche par la foi à la suite du bon berger. À y regarder de plus près encore, la sortie de la bergerie du troupeau, au verset 4, ne se fait pas sans douleur. En fait, je crois qu'on assiste là à une sortie catastrophe. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, traduit la Tobe, mais le verbe employé ici suggère autre chose que la simple action de faire sortir. Il serait tout à fait possible de traduire après qu'il les ait expulsés. Parce que c'est exactement le même verbe qui est employé ici qu'au chapitre précédent, au chapitre 9, où cette fois c'est l'aveugle-né qui témoigne de sa foi et les pharisiens le jettent dehors. Cet aveugle-né guéri, parce qu'il vient de témoigner. Même verbe. Frères et sœurs, comme troupeau du Christ, nous sommes invités à vivre nous aussi la douloureuse expérience de l'expulsion. expulsé, comme le bébé qui vient au monde en quittant le ventre de sa mère où il se trouvait si bien, au chaud, mais où il ne peut pas rester. Le berger ne veut pas que nous nous méprenions sur la vocation qu'il nous adresse, ni sur la relation qu'il veut développer avec nous. Cette relation sera dynamique, jamais symbiotique. Il est berger, pas gourou. Lui, le vrai berger, abandonne sa vie pour nous, en échange de rien, juste par amour, on en fait ce qu'on veut. C'est à chacun de découvrir ce qu'il va faire de cet amour, de ce don absolu. Mais vous entendez que nous sommes positionnés comme un peuple d'envoyés, un peuple d'expulsés dans le monde, un peuple de missionnaires non soutenus. C'est en sortant, en allant, chemin faisant que nous découvrirons qui nous sommes. C'est pas étonnant que les disciples se soient sentis un peu bousculés par cette parole, hein, et qu'ils n'y ont rien compris. La comprenons-nous mieux? Comment résonne-t-elle pour nous? Comme une douce parole d'évangile ou comme une parole à contre-temps? À contre-temps, oui, bien sûr, ça fait plus d'une année que nous sommes mis à distance les uns des autres à cause de la crise sanitaire. N'aspirons-nous pas, n'est-il pas légitime d'aspirer à nous retrouver dans notre belle et fraternelle bergerie pessacaise, bien que nous sommes toujours un petit troupeau, représentatif du grand troupeau, chaque dimanche. Et voilà qu'on nous parle ce matin de départ et de mission. Mais qui pourrait justifier, Bible en main, que cette église de Pessac a été édifiée en ce lieu pour abriter un troupeau repu, comblé de 1000 soins pastoraux pour son seul bien-être spirituel? Quand le pasteur Bill Adams, et on le salue, peut-être nous écoute-t-il dans sa maison aux États-Unis. Quand le pasteur Bill Adams a posé ici les bases de son implantation d'église, que voyait-il? Je le connaissais à l'époque. Nous étions pasteurs dans la même région. Il ne parlait pas beaucoup. Je ne vais pas répondre à sa place. Voyait-il une confrérie? Voyait-il un club de chrétiens? Ou voyait-il une base missionnaire sur un campus universitaire en plein essor pour accueillir et envoyer une église sur le départ, sur le qui-vive, une église attentive à la seule voix du divin pasteur? L'église n'est pas appelée à demeurer dans ses murs. Sœurs et frères, le Seigneur nous appelle à sortir, nous expulse à sa suite de notre confortable bien-être ecclésial. Et comme disait le poète Edmond Haraucourt, si partir c'est mourir un peu, rester c'est crever doucement. Ça c'est moi qui le rajoute. Dès que l'Église se comprend comme une fin en soi, comme le but de l'existence chrétienne, comme un prestataire de service pour ses propres besoins, elle perd le sens de sa vocation, elle s'égare, elle s'enferme. Et là, il est sûr qu'elle s'expose à 1000 problèmes internes aussi épuisants qu'inutiles. La bergerie du bon berger est un lieu de ressourcement, certes, de réconfort temporaire, d'un instant, pas un lieu de vie. La route peut faire peur, oui, mais n'est-ce pas lui qui la trace ? Il nous ouvre un chemin de rencontre avec tous, hommes et femmes de toute culture qui sont hors de notre bergerie et que Dieu aime autant que nous. Et qui demain, naissant eux-mêmes à la vie éternelle, s'ajouteront nombreux à la grande foule missionnaire en marche des amis du Seigneur Jésus-Christ. Amen.